Il est 7h.
Dans le foot, c'était un surhomme, mais dans la vie de tous les jours, il était comme nous, avec ses faiblesses. C'est ça aussi qui a créé un lien si fort avec nous. Naples, c'est Maradona.
Et oui, Naples, c'est Maradona. Toute une ville pleure depuis hier. La star incontestée du foot lui avait apporté 2 titres de champion d'Italie. Une icône, un dieu, le numéro 10 argentin, s'en est allé hier à 60 ans, après une vie de succès, mais aussi d'excès en tout genre. L'actualité ce matin, c'est aussi l'hommage national à Daniel Cordier, l'avant-dernier compagnon de la Libération, ancien secrétaire de Jean Moulin.
Je suis parti parce que je voulais faire la guerre, je voulais tuer des Boches. Les troupes de la France libre, nous étions des enfants.
Et dans de nombreux établissements, on veut à tout prix perpétuer sa mémoire. Nous irons en Moselle. Enfin, les commerçants préparent la réouverture samedi, notamment les libraires, heureux d'un retour en grâce à la faveur du confinement.
Juste après ce journal, les opérateurs peaufinent leurs offres 5G pour Noël. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette et l'édito sport de Virginie Fulpin. Nous reviendrons sur la mort de Diego Maradona. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était il y a 19 ans, le 10 novembre 2001, dans la Bombonera, le stade fétiche de Diego Maradona, celui du quartier pauvre de la Boca à Buenos Aires, là où tout a commencé. Le Pibe de Oro, le gamin en or, célébrait son jubilé et s'adressait aux 54 000 spectateurs en délire.
J'espère que cet amour que je ressens ne s'arrêtera jamais. Que cette grande fête ne s'arrêtera jamais. Au nom de ma mère, de mon père, de ma famille et de tous les footballeurs, merci. Le foot est le sport le plus beau et le plus sain, que personne n'en doute. Le foot ne doit pas payer les erreurs de certains. Moi, j'ai fait des erreurs et j'ai payé. Mais le foot, lui, on ne le salit pas.
Un moment de communion entre Diego Maradona et tous ceux qui l'adulaient en Argentine, où la veillée funèbre commence dans 2 heures à Buenos Aires. Le cercueil vient d'arriver au palais présidentiel. Un deuil de 3 jours a été décrété dans le pays.
Et on est aussi en deuil à Naples. Naples où Maradona était un dieu du foot. 2 titres de champion, 1 victoire en coupe de l'UEFA. Une légende napolitaine s'est éteinte et c'est toute la ville qui pleure.
Bonjour Blandine Hugonnet. Vous êtes en direct de Naples où de nombreux Italiens ont bravé hier soir le couvre-feu pour rendre hommage à leur idole.
Et oui, une nuit d'émotion ici à Naples. Je me suis rendue dans les quartiers populaires du centre de la ville où une petite place s'est transformée en sanctuaire. Devant des fresques immenses de Maradona, des jeunes sont venus allumer des fumigènes. Ils ont les larmes aux yeux, tout comme Francesco, on l'écoute.
Je n'arrive pas à y croire, je me souviens encore aller le voir au stade. C'est comme si mon père était mort, je suis détruit.
Voilà les Napolitains sous le choc qui se sont donc retrouvés dans cette sorte de musée de Maradona à ciel ouvert. Certains font le signe de croix devant des photos, des bougies. Malgré ses addictions, malgré ses liens avec la mafia, l'Argentin est devenu une vraie légende napolitaine. Pour Sassa, il a mis le maillot numéro 10 de son idole.
Dans le foot, c'était un surhomme, mais dans la vie de tous les jours, il était comme nous, avec ses faiblesses. C'est ça aussi qui a créé un lien si fort avec nous. Naples, c'est Maradona.
Depuis 30 ans, on voit ici le visage du dieu du foot sur les murs de Naples. Il fait partie de l'ADN de la ville, c'est ce que me raconte Emu Manuela. Son père était le chef des tifosi du Napoli à l'époque.
C'était un saint, il nous a tous donné de la joie ici, on a grandi avec lui, on a Maradona dans le sang. Nous on dit que Naples c'est 3 choses, le Vésuve, le café et Maradona.
À la ville de la Squadra de Maradona qui se réveille donc sous le choc, les Napolitains sont bien décidés à continuer à se réunir pour lui rendre hommage encore ces prochaines heures et ces prochains jours.
Blandine Hugonnet à Napoli pour Europe 1 et le maire de la ville annonce déjà qu'il veut donner le nom de Maradona au stade qui a d'ailleurs été illuminé toute la soirée d'hier.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1. Ce qui est vraiment marquant dans le parcours de Maradona, c'est que finalement il a vécu toute sa vie sous le regard des médias. Et il n'était pas programmé pour ça.
Ah non, et Maradona en souriait. « Je suis né, disait-il, dans une résidence privée. privé d'eau, privé d'électricité, privé de téléphone. C'était à la Villa Fiorito, l'un des bidonvilles les plus misérables de Buenos Aires. Mais dès l'âge de 10 ans, en effet, le petit technicien qui était déjà magique, eh bien, il anime les mi-temps de son club, il jongle sur la pelouse, il s'amuse sous l'œil des caméras qui ne le lâcheront plus jamais. À 12 ans, il confie ses rêves d'ailleurs, face caméra, jouer la Coupe du Monde et la gagner. Cela aurait pu être le cas dès 1978, il n'a que 17 ans. Mais le sélectionneur argentin de l'époque le trouve trop jeune et il devra attendre la fameuse Coupe du Monde de 1986. À Boca Juniors, il faut le savoir, c'est son équipe de cœur, hein. On l'entendait tout à l'heure, mythique maillot bleu et jaune. Il possédait une loge à vie qui avait été offerte par le club. Maradona, cette idole, appartenait à l'Argentine. Le footballeur appartenait au monde entier, mais il était encore plus que ça. Il était un dieu au sens propre du terme, parce qu'il faut le savoir, Mathieu, l'église maradonienne existe depuis 1998. Elle revendique une centaine de milliers de fidèles dans des dizaines de pays, surtout hispanophones. Noël, c'est le 29 octobre, son jour de naissance. Pâques, c'est le 22 juin, le jour de ce fameux Argentine-Angleterre, la main de Dieu, la résurrection de l'Argentine. Des mariages maradoniens ont même été célébrés en Amérique latine. À Naples, on trouve encore, vous le savez, en plus des peintures murales, des ex-voto pour se recueillir. Voilà, malgré sa vie de pêcheur, Maradona était aussi une passion au sens religieux du terme.
Voilà, on aura appris grâce à vous qu'il y a une église maradonienne. Merci Jean-François Perret. Et c'est bien sûr une pluie d'hommages depuis l'annonce du décès de Maradona. Le roi Pelé dit avoir perdu un grand ami un jour, écrit-il. J'espère qu'on pourra jouer au foot au ciel.
On va écouter Alain Giresse, qui avait joué contre Diego Maradona à Bordeaux en 1983. Il salue la mémoire d'un joueur hors norme.
Il nous a inspiré par le plaisir, l'envie de jouer au football, l'envie de voir ce qu'il était capable de faire. Mais on ne peut pas s'inspirer d'un joueur comme lui, c'est trop haut.
Oui.
On dit ouais, jouer comme Maradona, mais pardon, mais les qualités qu'il avait, comment avoir un tel niveau de qualité pour pouvoir s'inspirer? Non, ces joueurs-là, comme lui, ils ont autre chose qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut qu'admirer.
Alain Giresse, ancien international de l'équipe de France, invité hier soir de Julien Bugier sur Europe 1. Quant à Emmanuel Macron, il rend lui aussi hommage à Maradona, le plus grand footballeur de tous les temps, un danseur en crampons, un artiste, celui qui a fait la révolution sur les terrains.
7h07 sur Europe 1. Il ne reste désormais en France plus qu'un seul compagnon de la libération, Hubert Germain, qui, cet après-midi, assistera à l'hommage national rendu à Daniel Cordier dans la cour des Invalides.
L'ancien résistant, secrétaire de Jean Moulin, décédé à 100 ans, Daniel Cordier, qui inlassablement voulait transmettre l'histoire, son histoire, notamment aux plus jeunes. Arthur Elmbacher, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré en Moselle des collégiens et leurs enseignants. Eux aussi mettent un point d'honneur à faire vivre cette mémoire.
Or, c'est quelque chose de précieux, vous allez l'entendre, se plonger dans l'histoire, les vies de ses compagnons de la libération, leur trajectoire, leur choix. C'est ce qu'a fait Vincent, élève de 3e.
Je pense maintenant, entre collaboration et résistance, on serait dans cette situation où on pense plus rien faire pour être tranquille. Que là, ils ont quand même sauté le pas de sortir de leur zone de confort et ils auraient pu mourir. Quitter sa famille, tout, c'est quand même quelque chose. Hein.
Dans la même classe, au collège Pierre Mesmer de Sarrebourg, Clara, qui a écrit et lu pour l'inauguration d'une stèle, la biographie d'un compagnon de la libération.
J'ai rencontré la fille et la petite fille du monsieur que j'avais présenté, et ça m'a fait plaisir qu'ils soient fiers de leur père et de leur grand-père, quoi. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça, bah, ça m'a permis de découvrir ça.
Tu connaissais pas du tout les compagnons de la libération ?
Non, on n'avait jamais entendu parler. C'était une vraie découverte. Mais une bonne découverte.
Moi, ce qui m'a motivée, c'est leur motivation.
Karine Germain est la prof d'histoire géo de ces deux collégiens.
Beaucoup d'élèves voient ça comme quelque chose qui est encore très vivant. Très, très vivant.
Au programme de ce jeudi, dans les classes de cette enseignante, Daniel Cordier, honoré aujourd'hui aux Invalides.
Arthur Elmbacher, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Daniel Cordier sera inhumé demain au Père Lachaise.
Autre temps fort de ce jeudi, la prise de parole de Jean Castex en fin de matinée. Après les annonces d'Emmanuel Macron que vous avez été près de 30 millions à suivre, place au détail des mesures.
Et notamment sur la question épineuse de la jauge pour les cultes, les responsables religieux catholiques veulent aller au-delà des 30 fidèles à chaque office. Les commerçants se préparent en tout cas à rouvrir après-demain, avec évidemment des mesures sanitaires renforcées, notamment les libraires qui attendent les clients avec impatience. Science préparatif suivi par Nicolas Carreau.
on est prêt, archi prêt.
À la librairie Lamartine à Paris, Stanislas Rigaud est dans les starting blocks avec le click et collect, les paquets s'amoncellent et la librairie est sans dessus-dessous. Il va falloir tout remettre en ordre, mais le libraire est soulagé par la réouverture.
On est très content de rouvrir parce que ça nous permet de plus échanger avec les gens, de plus proposer. Et ensuite, ça risque d'être moins fatigant parce que quand vous avez une grosse librairie et que vous passez votre journée à faire 53 km pour aller chercher les bouquins, revenir, repartir, revenir, repartir, revenir, repartir, je peux vous dire que je me suis couché à 9h du soir tous les soirs de la semaine.
Financièrement, ça va, la librairie n'a pas trop souffert. Surtout, un déclic a eu lieu, un retour en grâce des libraires et pour longtemps, selon Stanislas Rigaud.
La formidable surprise de cette année, il en faut bien une, hein, c'est effectivement cet engouement. Ça fait des mois qu'on nous remercie, ça fait des mois qu'on est mis en avant, effectivement dans des conditions spéciales, mais il y a une vraie reconnaissance de la spécificité de ce commerce. Les livres ne sont pas un produit comme les autres.
La réouverture s'annonce sportive, les clients devraient affluer à la fois pour les cadeaux de Noël, mais aussi parce que le prix Goncourt sera annoncé lundi, ce qui devrait booster encore un peu plus les ventes.
Nicolas Caro, le Conseil d'État annule deux dispositions très contestées de la réforme de l'assurance chômage, les modalités de calcul de l'allocation et le bonus-malus sur la cotisation chômage de certaines entreprises. Aux États-Unis, Donald Trump accorde une grâce à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, premier de ses proches mis en cause dans le cadre de l'enquête russe. Un abus de pouvoir, selon les démocrates. Et puis, on va finir comme on a commencé avec du foot et ce triste record pour Marseille, 13e défaite en Ligue des Champions hier soir. L'OM battu par Porto 2-0 est éliminé de la compétition.
Merci Hélène Zelani. C'était le journal de 7h.